15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie d'être là en direct avec vous pour une émission toujours en partie consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Pour m'aider à vous éclairer et à prendre soin de vous tous les jours, il est là lui aussi de retour chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous avez vu, je suis ravie que vous soyez chez vous comme moi. J'étais jalouse hier, vous savoir dans le studio. Ça me fait plaisir, c'est comme ça, c'est tout. Allez, aujourd'hui nous commencerons par interroger le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il nous fera bien sûr un point sur la situation actuelle dans son service où l'on accueille bien sûr les patients les plus graves. Et puis, il nous donnera aussi son sentiment sur ce qui nous attend. À ce stade, voit-on déjà un rebond peut-être de l'épidémie depuis le déconfinement ou est-ce encore trop tôt pour le dire? Nous verrons ce qu'il en pense. Ensuite, dans la deuxième partie de son rendez-vous, vous le savez, depuis quelques semaines, on tente d'aborder d'autres sujets santé que le coronavirus, des sujets plus tourné vers le bien-être. Cet après-midi, il sera question d'art-thérapie. Pour en parler, notre invitée, ce sera l'art-thérapeute Sophie Poussineau. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre psychanalyste, qui va aujourd'hui tenter d'aiguiller un jeune homme qui vient de faire son coming out, d'avouer son homosexualité à ses parents et qui a besoin de quelques conseils.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Bruno Mégarban, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. On a pris régulièrement de vos nouvelles dans cette émission depuis le début de l'épidémie. Bon, là je pense que c'est clair à ce stade en réa, et donc chez vous ça doit être pareil. Ça s'est beaucoup calmé, même à Paris.
Tout à fait, la situation c'est... très significativement amélioré. Effectivement, à Paris, nous n'avons plus dans notre service eu d'admission pour une infection grave à Covid depuis maintenant quasiment 3 semaines.
Mmh.
Aux urgences également, depuis 15 jours, il n'y a plus de consultants pour une nouvelle infection par Covid. Mmh. Néanmoins, un certain nombre de patients reconsultent dans le cadre d'infections par Covid qu'ils ont contractées précédemment. À l'inverse, dans le service, nous sommes rentrés dans les murs, puisque nous étions sortis pendant quasiment 2 mois.
Vous étiez un petit peu étalés, il a fallu pousser les murs, ouais, c'est ça.
Exactement, nous avions envahi d'autres services, et là nous sommes re-rentrés dans nos murs. Donc nous avons actuellement 18 lits de réanimation, mais toujours 10 patients infectés par le Covid, donc 10 sur 18. Et ce sont donc des patients qui ont contracté le Covid lors de la première vague, et pour certains qui sont chez nous depuis maintenant quasiment 2 mois, des formes d'atteinte respiratoire extrêmement graves. En fait, comme tout le monde l'a compris, le coronavirus va créer une pneumonie avec des lésions pulmonaires très sévères. Et donc, il faut après beaucoup de temps pour que le poumon cicatrise et éventuellement régénère. C'est ce que l'on l'espère. Donc, certains de ces patients sont en situation extrêmement encore critique. Ils sont intubés, ventilés. Pour certains, ils sont encore sous oxygénation extracorporelle. Et on espère que, avec le temps, les choses vont pouvoir s'améliorer.
2 mois en réa, c'est dingue. Hein, c'est vraiment énorme. Jimmy ?
Et est-ce que justement le profil des gens qui ont été contaminés est toujours resté le même depuis le début de l'épidémie, ou vous avez vu des choses évoluer avec des gens peut-être un peu plus âgés et plus fragiles qu'au début, ou c'est toujours pareil ?
Non, on va dire les facteurs de risque de formes plus graves de Covid ont peu évolué. Donc effectivement, le facteur principal reste l'âge, mais également les personnes qui ont quelques comorbidités, notamment la surcharge pondérale, voire l'obésité. Les problèmes d'hypertension,
le fait d'être un homme,
hein,
je crois aussi.
Ouais. Alors effectivement, en fait, c'est pas tellement le sexe qui joue. Je crois que c'est les hommes ont, malheureusement pour nous,
plus de
risque d'avoir de comorbidités, ouais, notamment de troubles métaboliques, comme le diabète ou la surcharge pondérale, et donc sont plus à risque de développer les formes graves. Mais bien sûr, pour tout ça, il faut attendre les statistiques finales, parce que pour le moment, nous avons que des impressions, même si ces impressions semblent confirmées avec le temps.
Professeur Mégarban, en réa, on le sait, vous avez dû faire face, vous nous l'avez déjà raconté dans cette émission, à des tensions, notamment sur certains médicaments, les médicaments pour endormir les patients par exemple. Est-ce que de ce côté-là, ça va mieux aussi? Est-ce que vos stocks de médicaments ont pu être reconstitués?
Oui, tout à fait. On va dire, ces problèmes de stock sont survenus parce que les besoins ont augmenté de façon très importante et imprévue. Donc maintenant, bien sûr, on a beaucoup moins de personnes intubées, ventilées, et donc on a besoin de moins de quantité de sédatifs, de curares, et donc évidemment, la situation est revenue quasiment à la normale concernant les médicaments. On a moins besoin de ventilateurs, là aussi. Il faut savoir évidemment qu'au cours de la crise, les besoins augmentant de façon exponentielle, on a dû faire face, mais quand même, le système hospitalier s'est parfaitement bien organisé, et en tout cas, à mon niveau, donc à l'hôpital de la Ribosière, nous n'avons jamais manqué ni de sédatifs, ni d'antibiotiques, ni même de ventilateurs.
Vous dites le système hospitalier, mais je crois que les hommes derrière ce système aussi ont fait vraiment, vraiment énormément pour que ça tienne.
Hein? Donc bien sûr, évidemment, oui. Le système hospitalier en soi ne tient que parce qu'il y avait les soignants sur le terrain, et ça j'insiste, évidemment, beaucoup ont fait, se sont investis, ont fait beaucoup d'efforts, ont donné de leur temps, ont pris des risques, évidemment, pour soigner tous ces patients. L'administration a suivi derrière, et pour une fois, ce qui nous a beaucoup étonnés, a placé le patient au centre de la mission hospitalière, de leurs préoccupations, sans regarder, outre mesure, les problèmes de comptabilité et de finances. Et le système a très bien fonctionné.
Docteur Dimi Mohamed.
Professeur Megarban, nous sommes déconfinés de façon progressive depuis 10 jours. Est-ce que c'est encore trop tôt pour savoir si le virus recircule un petit peu? Et si ce n'est pas le cas, au bout de combien de temps pour avoir une idée sur une éventuelle deuxième vague?
Alors, comme tout le monde le dit, effectivement, actuellement, la circulation du virus est relativement basse. Ceci d'ailleurs dans toutes les régions de France, que ce soit celles qui sont en zone rouge ou en zone verte, le virus circule de façon basse. Néanmoins, il circule toujours, il n'a pas disparu totalement, ce qui explique évidemment que dans certains endroits, par exemple les abattoirs, on en a parlé récemment, eh bien, en raison des conditions de travail, en raison du non-respect des mesures barrières, eh bien, des clusters peuvent émerger.
Donc, le but de la stratégie, ouais.
Voilà, exactement. Donc, le but, bien sûr, c'est de circonscrire ces foyers pour éviter que les sujets contacts, notamment asymptomatiques, rediffusent le virus ailleurs. C'est ce qui s'était passé avant la première vague. Et donc, évidemment, la politique mise en place actuellement a pour objectif d'éviter une seconde vague. Mais cette seconde vague, en théorie, est totalement plausible, puisqu'en fait le taux d'immunité de la population
est très, très bas, ouais.
Donc de l'ordre de 6 à 10%, et donc ce qui permet dessus, parfaitement, ouais, d'observer évidemment une deuxième vague. Mmh. Mais la différence par rapport à la première fois, c'est que désormais la population a compris les mesures barrières et pour la très grosse majorité l'applique. Et les études laissent montrer que si 85% d'une population applique strictement les mesures barrières, l'épidémie s'éteint en elle-même, même si la population n'est pas immunisée.
Professeur Megarban, une dernière petite question pour cette partie-là. Justement, on parlait de deuxième vague, on va parler du deuxième tour des municipales. Le Conseil scientifique, c'est juste votre avis en tant que citoyen également, hein. Le Conseil scientifique a dit aujourd'hui qu'il n'était pas opposé à l'organisation du deuxième tour en juin. Donc à nouveau, un rassemblement de Français, même s'il y a des précautions, ça vous semble raisonnable?
Alors, je dirais, le Conseil scientifique a plutôt été extrêmement prudent dans ses annonces et dans ses décisions. Donc, s'il prend une telle décision, c'est qu'il est extrêmement optimiste sur les choses. Et donc, effectivement, je dirais, si dans les jours qui viennent, on ne voit toujours pas réapparaître une petite vague de cas, donc c'est qu'effectivement, l'épidémie est en train de disparaître, ou en tout cas, est parfaitement bien contenue. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut assez vite revenir à la vie normale. Alors maintenant, ça c'est les considérations théoriques. Maintenant, évidemment, je n'ai pas moi d'opinion personnelle directe sur est-ce qu'il faut,
bien sûr,
pour des raisons politiques, organiser ou pas les élections municipales là en juin de façon un peu plus précipitée. C'est sûr que la prudence voudrait que ça soit un tout petit peu décalé. Maintenant, je crois qu'il faut faire le pour et le contre entre décaler le deuxième tour et donc avoir quand même certaines contestations politiques, puisqu'en fait le délai entre les deux tours sera extrêmement long, versus faire les choses un peu plus rapidement. Mais bien sûr, ça doit se faire sans risque. Et en fait, le risque n'est pas tellement le moment du vote, puisqu'en fait, les mesures barrières seront appliquées, mais c'est en fait la campagne électorale avec les meetings, les gens qui se rapprochent, voilà.
Tout ça, ce sont des choses dont on n'a pas besoin, effectivement, voilà, et qui nous font peur, effectivement. Merci, professeur Megarban. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, votre émission Santé revient. Aujourd'hui, toujours plus de réponses aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus et l'avenir aussi. Hein, le professeur Megarban reste avec nous. Dans quelques petites minutes, on va parler avec lui notamment de l'immunité acquise ou pas, au final, une fois qu'on a eu la maladie. Tout ça, c'est juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le professeur Bruno Megarban. Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Riboisière à Paris. Professeur Megarban, on reçoit encore des questions d'auditeurs autour du coronavirus, du virus. Et notamment, on a par exemple reçu celle de Serge qui nous demande si on a une meilleure idée aujourd'hui de la durée de la contagion quand on est infecté et malade donc du Covid.
Alors oui, on commence à mieux connaître les choses. Alors tout d'abord, ce que l'on a appris, c'est que les sujets asymptomatiques sont contaminants. Ensuite, en fait, avec les études, on a montré que la durée de contagiosité est plus importante que ce que était prévu au départ.
Ah, oui.
Donc les personnes sont contagieuses 2 à 3 jours avant le début des manifestations et puis pendant une dizaine à 15 jours après le début des manifestations. Et pour les formes graves, en fait, donc notamment par exemple les personnes qui ont été hospitalisées en réanimation, eh bien, on trouvait toujours des tests viraux positifs jusqu'à 1 voire 2 mois après l'hospitalisation.
J'allais dire, ceux qui sont chez vous, là, qui sont là depuis 2 mois, voilà. Vous nous disiez, pour certains, ils sont encore contagieux, pour vous, par exemple ?
Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont contagieux. Ce qu'on peut dire, c'est que pour certains, on trouve toujours du matériel génétique dans les aspirations respiratoires. Donc le virus, en tout cas des segments de virus sont présents. Maintenant, on ne sait pas si ces segments sont suffisants et si le virus est présent de façon complète pour pouvoir être contaminant. C'est très peu probable malgré tout. On pense quand même raisonnablement la période de contagiosité, y compris pour les formes graves, va de 2 jours avant le début des symptômes jusqu'à à peu près 20 jours après la fin des symptômes.
Très bien. Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur Megarban, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'immunité conférée par une infection ? Est-ce qu'on sait si on est protégé, qu'on peut peut-être éviter une deuxième infection ou c'est encore trop tôt ? Est-ce que vous avez vu, alors peut-être pas en réanimation parce que j'ai cru comprendre que si on avait une deuxième forme, celle-ci était plutôt mineure, mais est-ce que vous avez vu des patients infectés une deuxième fois ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, on va dire dans la littérature, dans l'international, il n'a jamais été rapporté de cas d'une deuxième infection. Donc, ce qui laisse penser, même si on n'a pas la preuve définitive, que l'immunité acquise après une première infection est protectrice. D'ailleurs, l'ensemble des études sérologiques semble montrer que tous les individus qui ont fait une forme, qui ont fait une infection par Covid-19, développent des anticorps. Maintenant, le taux d'anticorps est variable entre les individus et la nature neutralisante de ces anticorps est également variable.
Donc on est plus ou moins bien immunisé et plus ou moins longtemps, quoi, c'est
voilà.
Ça un peu,
ouais. Alors il faut savoir aussi quand même que le taux d'anticorps n'est pas le seul reflet de l'immunité antivirale. Il y a aussi des cellules mémoire qui sont produites à la suite de cette première rencontre et qui vont aussi jouer un rôle. Et pour le moment, il n'est pas évident et facile de mesurer cet aspect-là de l'immunité. Donc en fait, on en mesure l'aspect le plus simple qui sont les anticorps. Alors globalement, ce que l'on peut penser, c'est que oui, effectivement, il y a bien une immunité protectrice à la suite d'une première infection. Oui, celle-ci probablement dure un certain temps, mais par analogie aux autres coronavirus, où finalement l'immunité régresse, ou en tout cas les anticorps disparaissent au bout de quelques mois, on peut penser que cette immunité n'est pas du tout définitive.
Oui. Donc l'année prochaine, si ça devenait saisonnier, on serait plus personne ne serait immunisé.
Exactement.
Ouais.
Exactement. En tout cas, les gens qui ont fait une première fois le coronavirus, très probablement, s'ils devaient en faire une seconde, la seconde serait moins importante, évidemment, puisque quand même, il y a un certain niveau de connaissance du virus par le corps humain.
Professeur Megarban, on parle aussi beaucoup de ces enfants atteints par ce qui ressemble donc à un syndrome de Kawasaki. On se rend compte finalement, il y a une publication aujourd'hui, je crois, dans Circulation, qui montre que finalement, d'ailleurs, c'est pas tout à fait un syndrome de Kawasaki, mais peu importe. Est-ce que chez les adultes, vous, que vous voyez, vous avez remarqué éventuellement peut-être des atteintes cardiaques, des myocardites, enfin des complications qui pourraient s'apparenter aussi à ce Kawasaki ?
Alors, le syndrome de Kawasaki, en fait, lui, typiquement, en fait, va se passer chez l'enfant et donc va associer une fièvre persistante, des ganglions, et puis notamment une éruption, des rougeurs sur la peau qui vont s'étendre, notamment aux mains et aux pieds, et desquamer, avec une langue parfois qui a un aspect un peu framboisé. Alors, cet aspect-là, dit de Kawasaki, est très peu ou n'existe pas chez l'adulte. Par contre, cette forme, en fait, que l'on observe chez l'enfant va s'associer à des myocardites, c'est-à-dire une inflammation du cœur, voire une inflammation des vaisseaux. Et donc, effectivement, chez l'adulte, on peut parfaitement voir des myocardites. Alors, l'explication des myocardites est soit liée directement au virus, et donc, un certain nombre de patients ont présenté des atteintes cardiaques au moment de leur infection aiguë, et d'ailleurs, parfois, cette myocardite a été à l'origine du décès. Mais également, ce qui est le cas du syndrome de Kawasaki, il se peut qu'il y ait des formes dites post-infectieuses, c'est-à-dire cette fois-ci non pas liées directement au virus, mais liées aux anticorps que le corps humain a produits pour se défendre contre le virus, ou aux cellules immunitaires très activées qu'il a développées et qui vont en fait s'attaquer au cœur plutôt que de s'attaquer au virus qui a généralement déjà disparu. Et donc ce sont des myocardites dites post-infectieuses. Et effectivement, il a été rapporté quelques cas très rares de myocardites post-Covid chez l'adulte.
Professeur Megarban, pour terminer cet entretien avec vous, peut-être juste un mot, on est déconfiné maintenant depuis une semaine, enfin un peu plus d'une semaine. Qu'est-ce que vous voyez des gens dans la rue? Qu'est-ce que vous pensez de ce déconfinement? On a été trop vite, certains ont trop cru que ça y est, c'était liberté retrouvée comme avant, ou est-ce que vous trouvez qu'on gère plus ça plutôt bien, les Français?
Alors je dirais, l'impression est un peu mitigée. Alors je crois quand même globalement, les personnes ont très bien compris les enjeux. C'est ça le point important, c'est-à-dire l'infection est potentiellement grave, notamment chez certaines personnes fragiles, et ils ont bien identifié que l'âge est un facteur de risque, et qu'il faut surtout protéger les personnes les plus susceptibles de développer les formes graves. Et donc, évidemment, je crois que les mesures barrières sont bien rentrées dans les esprits. Maintenant, effectivement, malheureusement, avec le soleil, avec les manques qui ont résulté du confinement, c'est sûr qu'il y a eu un peu de relâchement.
Profitons, mais restons vigilants, quoi.
Voilà. Donc, exactement. Merci. Donc, je crois que voilà, le point le plus important, c'est qu'il faut être optimiste. Très probablement, il n'y aura pas de deuxième vague. Néanmoins, pour pouvoir gagner cette certitude, il faut rester vigilant encore et encore.
Merci beaucoup, professeur Megarban, d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant de vous entendre. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre encore à quelques-unes de vos questions, celles que vous nous laissez sur le répondeur d'Europe 1. On y vient dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, Jimmy, on va prendre le temps de répondre, nous, à quelques-unes des questions des auditeurs d'Europe 1, celles que vous nous laissez sur notre répondeur, le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. On va commencer par la question de Sophia. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question, je suis enceinte, j'ai la première échographie la semaine prochaine et j'aimerais savoir si, à votre avis, mon conjoint peut m'accompagner étant donné qu'on est déconfiné maintenant, est-ce que les règles ont un peu changé? Je vous remercie, bonne émission, au revoir.
Jimmy, alors, pour l'échographie, donc première échographie, un moment important souvent, cette première écho pour un jeune couple, justement, est-ce que le futur papa, là, donc dans la question de Sophia, va pouvoir l'accompagner?
Alors c'est vrai qu'elle est importante, celle qui est souvent qui passionne les parents, c'est la deuxième, là où on connaît le sexe, mais de toute façon toutes les échographies
première,
sont importantes.
On entend le cœur quand même, c'est quelque chose.
C'est vrai aussi, il y a ce côté nostalgique, ouais, bon, ça remonte à très loin tout ça. Ouais, en tout cas, non, pour l'instant, non, il n'est pas possible d'assister aux échographies, que ce soit la première, la deuxième ou même la troisième, ou tout autre type d'examen, si vous devez aller chez le dentiste, chez votre médecin généraliste, amener votre enfant se faire vacciner, on laisse simplement rentrer une personne, on évite à ce moment-là de contaminer, de transmettre la maladie si jamais vous étiez asymptomatique, et donc il n'est pas possible d'assister aux examens. En revanche, il sera possible, sauf si les choses évoluent, d'assister à l'accouchement. C'est mieux que rien, mais pour l'instant, il faut se contenter malheureusement d'être à distance ou peut-être de mettre un FaceTime ou quelque chose pour être présent sans être présent.
Alors je précise quand même, c'est vrai, hein, Jimmy, c'est effectivement, je pense, encore impossible dans beaucoup de centres d'échographie. Néanmoins, il y a quand même le Collège national des gynécologues qui a fait une recommandation il y a quelques jours en incitant le plus possible quand même les établissements à essayer de permettre la possibilité aux parents, aux deuxièmes parents, d'être présents dans des conditions sanitaires très sécurisées, éventuellement avec une prise de température, avec un masque. Donc voilà, les choses évoluent de toute façon au jour le jour et il faut vraiment de toute façon poser la question quand on prend rendez-vous pour son échographie. Il y a des centres aujourd'hui où je crois malgré tout ça, c'est à peu près accepté. Alors, on va prendre une autre question, Jimmy. La question donc de Guillaume qui nous demande si les symptômes digestifs, même si on n'a uniquement que ça, peuvent faire penser au coronavirus.
Alors oui, effectivement, ça peut en faire partie. Alors pourquoi des symptômes digestifs ? On sait que le coronavirus se fixe sur des récepteurs, on dit, de l'enzyme de conversion numéro 2, l'ACE2, et ces récepteurs sont présents dans le poumon, donc d'où les formes respiratoires, mais il y en a en plus grande quantité dans le système digestif, raison pour laquelle vous pouvez avoir de la diarrhée et avoir le Covid. Moi, je pense qu'en cette période où on cherche à tester de plus en plus de personnes, si vous avez des symptômes digestifs, même mineurs, de la diarrhée, des douleurs abdominales, il est préférable de consulter. Au moindre doute, nous sommes en capacité de vous tester, et si jamais vous êtes positif, et bien ça permettra de remonter la chaîne de contamination. Donc tout symptôme, à mon sens, respiratoire ou même digestif, doit faire amener une consultation et un test au moindre doute. C'est remboursé par la Sécurité sociale, on n'avance pas de frais. Donc oui, allez-y, même si peut-être vous avez le droit aussi d'avoir une intoxication alimentaire et qu'avec le déconfinement, des viroses peuvent revenir. Mais voilà, dans le doute, consultez.
Très bien, merci Jimmy. Alors, on va prendre une autre question. Donc celle-là, on l'a reçue sur le 3921. C'est la question de Marianne, on l'écoute tout de suite.
Je voulais poser une question au docteur Jimmy Mohamed, savoir ce qu'il pensait de la fibromyalgie par rapport au Covid-19. Je n'ai pas d'ALD. Merci beaucoup, au revoir.
Jimmy, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marianne qui est donc atteinte de fibromyalgie ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait des données là-dessus, mais dites-nous ce que vous en savez.
Non, pas de lien, en tout cas pas de données publiées entre fibromyalgie et coronavirus. En revanche, vous avez le droit d'avoir la fibromyalgie, d'être âgé, de l'hypertension ou toute autre pathologie qui pourrait entraîner une forme grave de coronavirus. Mais sur celle-ci, à proprement parler, pas de données et pas d'indication qu'elle serait plus grave ou plus sévère ou moins sévère qu'une autre. Donc patientons et encore une fois, on aura peut-être d'autres réponses dans quelques mois, même si à l'heure actuelle, si on fait maladie infectieuse et fibromyalgie, aucune surinfection ou surmortalité liée à cette pathologie.
Dans cette population. On va prendre une toute petite dernière question de Jimmy, puisque je pense que celle-là, elle va parler de votre quotidien. Vous allez pouvoir répondre facilement. On a Lucienne qui nous écrit pour nous demander si les malades hors Covid recommencent enfin à consulter. Ben, je ne sais pas, vous êtes en consultation tous les jours. Est-ce que chez SOS Médecins, l'activité est repartie pour les pathologies hors Covid, hein, je précise.
Alors déjà, c'est rassurant. Comme le professeur Megarban, moi, je n'ai pas vu de Covid depuis au moins 3 semaines. Donc, c'est une bonne nouvelle. On recommence à voir des gens consulter. La seule chose, c'est que j'ai vu des gens consulter à un stade tardif. J'ai fait 3 diagnostics d'hémorragie digestive la semaine dernière. Des gens qui finalement ont tardé, mais on commence à les revoir. Des douleurs abdominales, des migraines, des sciatiques. Donc pour l'instant, ça commence à repartir tout doucement. Et puis les gens sont prudents, ils sortent un peu moins, donc on a aussi moins d'accidentologie. J'espère que les gens seront malgré tout consciencieux et consulteront surtout pour ceux qui ont des pathologies chroniques.
Très bien, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Pour cela, nous allons recevoir une art-thérapeute. Aujourd'hui, c'est Sophie Poussineau qui sera notre invitée juste après. Mais avant ça, place à la musique sur Europe 1 avec la chanteuse Isia et son titre intitulé « Sous les pavés ».
Où est passé le vrai désir d'être vivant, les envolées sauvages et les nuits éblouissantes. Je sais, c'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la place. Y'a tout qui reste à faire. Y'a tout qui reste à faire. Y'a tout qui reste à faire.
Y'a tout qui reste à faire.
C'était donc la chanteuse Zizia avec son morceau « Sous les pavés ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. À présent, nous accueillons en ligne Sophie Poussineau. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Bonjour. Sophie, vous êtes art-thérapeute. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer, parce qu'on n'est pas des spécialistes du tout du sujet, nous, mais qu'est-ce que c'est finalement, très simplement, l'art-thérapie ?
Oui, tout à fait. Bah, c'est un métier déjà assez récent, hein, pas très connu encore en France, même si on commence à en parler. Alors je dirais que ce métier consiste à accompagner des personnes en souffrance, hein, que ce soit des souffrances émotionnelles, psychologiques ou physiques, bah, en les invitant tout simplement à créer, à s'exprimer par les médiums artistiques. Donc c'est assez large, hein, les médiums artistiques, ça peut être aussi bien la peinture.
Oui, j'allais dire, c'est pas que de la peinture ou du dessin, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous proposez dans l'éventail, on va dire, grosso
modo ?
Voilà,
c'est ça. Donc je dirais que comme dans chaque discipline, les approches sont différentes selon les thérapeutes, selon les art-thérapeutes. On va dire que moi, que ce soit dans mon cabinet à Rueil ou alors à l'extérieur en intervention, en institution, j'essaye de proposer des outils qui vont correspondre aux objectifs donc présentés par les patients ou par les groupes que j'anime. Et ça va être aussi bien, en effet, ça peut être du dessin, de la peinture, mais également du modelage, travailler avec l'argile, travailler aussi avec les pastels, avec le collage, les mandalas. Et puis également, moi, j'aime bien faire intervenir le corps. Donc, j'aime bien aussi travailler en musicothérapie, danse-thérapie, voilà. Donc, c'est assez large, voilà, selon la formation, selon les outils qu'on a dans notre cabinet ou à l'extérieur. Bah, c'est vraiment large. Ça ne se résume pas qu'au dessin et à la peinture.
Jimmy Mohamed.
J'ai de nombreuses qualités, mais dessiner n'en fait pas partie. On est bien d'accord que le but, ce n'est pas de devenir le nouveau
danser
Claude
non plus,
Monet.
Hein, mais bon.
Pas du tout. Ni danser, ni chanter, ni devenir...
C'est pas vraiment un artiste, c'est un médecin, quoi.
Ah, voilà.
C'est pas incompatible. Hein. J'ai connu des médecins très artistes. Hein, mais...
Très bien. Et voilà, et même les art-thérapeutes, on n'est pas obligé d'être aussi artiste pour être art-thérapeute. Pas du
bien
tout,
sûr.
Même si on doit faire preuve de créativité hein, pour s'adapter à la demande du patient. Mais pas du tout. En fait, il faut vraiment, justement, c'est ce que j'invite mes patients dès qu'ils rentrent dans mon cabinet, c'est à gommer les aspects esthétiques hein, qui sont quand même prégnants dans notre société, etc. Donc, il y a les souvenirs de l'école où on doit faire beau, on est noté. Donc, moi, j'essaie de gommer ça d'entrée en disant, vous êtes ici. Voilà, il n'y a pas de notes, vous êtes là surtout pour vous exprimer, poser des émotions, poser les choses qui ne vont pas. Et au contraire, on essaie de gommer cet aspect esthétique qui est d'ailleurs c'est une des problématiques par exemple des enfants qui viennent dans le cabinet, c'est la confiance en soi. Donc on essaie de gommer cet aspect-là pour aller justement dans la créativité et puis même je dirais même des fois revenir à jouer parce que des fois on perd ça. Et c'est comme l'enfant quand il est petit, tout le monde s'est créé dès l'enfant, c'est-à-dire on prend un crayon, on fait un gribouillis, on s'exprime, et après ça se perd avec l'école, avec l'âge, etc. On a peur de créer, alors que bah, c'est un geste humain de créer.
Bien sûr. Dites-nous, je vous avais dit que donc, chaque différent domaine artistique, entre guillemets, est plus approprié pour un type de patient, de problème. Oui. Quelqu'un qui arriverait avec un problème de stress, certains en ont beaucoup en ce moment, vous l'orienterez vers quoi? Vers la peinture, vers la poterie? Qu'est-ce qui est plus adapté en ce moment à ce qu'on vit en plutôt dans le stress, quoi, je veux dire.
D'accord. Alors moi, ce que j'essaye de voir, c'est pas simplement que la pathologie ou la souffrance de la personne, c'est de voir également, essayer de connaître la personne aussi. Parce que pour telle personne, même s'ils ont les mêmes, on va dire, pathologies, les outils vont pas forcément correspondre. Donc j'essaye de m'adapter, voir... sur mesure, etc. Et par rapport à ça, bien sûr, je vais essayer de sortir mes outils. J'ai toute une mallette.
Jimmy, vous trouverez votre bonheur, je suis sûre, là-dedans. C'est obligé, hein, même si vous êtes nul en dessin. Oui.
En parlant de bonheur, si au contraire on ressent de la tristesse et qu'on décide de dessiner, qu'est-ce qu'il faut dessiner? Plutôt un soleil ou de la pluie
veut se lancer,
ou des larmes?
Oui, vous êtes intéressé, hein, je vous invite à venir. pas de souci. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas dire à la personne, vous êtes triste, vous allez dessiner un soleil ou vous allez dessiner du jaune, etc. Même si nous, on connaît par notre formation, hein, quelle couleur, par exemple, correspond au bonheur, je vais vous dire tout de suite le jaune. Mais je ne vais pas dire à la personne, dessine un soleil, etc. Je vais plutôt essayer de comprendre ce qu'elle a et par rapport à ça, poser des choses. Donc ça peut être, par exemple, si elle a une colère, tout simplement, parce que je vous ai parlé de la peinture, du modelage, etc. Mais ça peut être aussi l'écriture. Donc une colère, ce que j'aime bien faire, moi, dans mon cabinet, c'est tout simplement partir en écriture spontanée, écrire ce qui lui vient sur une feuille, la déchirer, et puis on aime bien aussi transformer, c'est-à-dire qu'on ne va pas être juste poser une émotion négative, mais une fois qu'on a déchiré par exemple la feuille, aller recouvrir ça de peinture, aller recouvrir par un paysage, etc.
Donc on voit déjà badigeonner des feuilles, Jimmy, je vous imagine, mettre du jaune, du vert, du rouge. Alors Jimmy, ce qu'il a comme problème, c'est qu'il est très timide, hein, tout le monde le sait. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas adapté aux gens qui... Je plaisante, hein, Jimmy n'est pas particulièrement timide, mais je me dis que cette thérapie par là, ça peut aider les gens qui sont pas très à l'aise comme ça, justement, parler parfois à un psychologue quand on est un peu timide, c'est pas évident. Et l'art, ça peut permettre de faire ressortir des choses comme ça.
Tout à fait. Alors ça peut être les personnes en fait qui manquent de confiance en elles. Donc j'en ai pas mal qui viennent aussi dans ces problématiques-là. Donc en effet, comme c'est une thérapie non verbale, c'est peut-être plus facile d'aller écrire des mots, d'aller poser une couleur, d'aller poser un dessin, que de parler et de raconter. Voilà, moi je ne vais pas demander, même si on a un entretien préalable, en fait on a une anamnèse aussi, hein, comme beaucoup de thérapeutes, où je vais poser des questions. Je ne vais pas aller creuser, on va dire, dans la vie de la personne, connaître la vie de ses parents, de ses arrière-grands-parents, etc. Donc, en effet, une personne qui n'a pas envie de parler ou qui n'a plus envie de parler, parce qu'on peut se retrouver aussi avec ces personnes qui ont eu beaucoup de thérapie et qui n'ont plus envie de parler, et ben s'exprimer par le dessin, ça peut être plus facile, en effet.
Ça permet d'ouvrir parfois une petite porte. Sophie Poussino, on va s'arrêter quelques minutes et on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler des bienfaits de l'art-thérapie. On se détend, on sort un peu aujourd'hui dans ce rendez-vous du coronavirus et ça fait du bien de parler aussi d'autres sujets qui vous concernent. On parle de votre santé, de votre bien-être dans cette émission. Restez sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors vous êtes toujours en ligne avec nous, Sophie Poussino, vous êtes art-thérapeute. Depuis tout à l'heure, donc vous nous expliquez un peu votre quotidien, ce que vous proposez à vos patients. Depuis la pandémie, depuis le confinement, est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes? J'imagine que vous avez arrêté vos séances de visu, on va dire. Les patients, ils étaient dans quel état? Vous avez eu quel type de demandes, justement?
Alors j'ai eu pas mal de demandes. Moi, en effet, j'ai fermé mon cabinet assez tôt, hein, comme beaucoup de thérapeutes, beaucoup de professions. Et j'ai eu pas mal de demandes, on va dire que... moi, je ne parlerai pas du confinement, je parlerai des confinements, parce qu'il y a eu plusieurs demandes avec des configurations différentes, hein, selon les pathologies et les situations dans lesquelles se retrouvent les personnes. Donc, en effet, des personnes qui étaient déjà dans des situations, on va dire, de solitude et de stress et de dépression avant le confinement, le confinement a fait que ces personnes-là ont eu vraiment de la détresse et j'ai eu beaucoup de coups de fil par rapport à ces personnes-là qui ressentaient beaucoup de solitude, etc.
Et vous avez pu donc faire ça en, je sais pas, en visio? On peut faire de l'art-thérapie à distance ou c'est compliqué?
Alors, c'est pas l'idéal, hein, bien sûr, parce qu'en atelier, il y a déjà le lieu hein, qui aide pour les personnes. Voilà, il y a tout le matériel, il y a ma présence, l'accompagnement, etc. Donc, en effet, à distance, ça n'a rien à voir avec le travail en atelier. Mais ça peut quand même aider. On peut proposer des exercices de soutien pour accompagner ces personnes-là. Alors, c'est sûr que toutes les personnes ne sont pas équipées d'ordinateur ou ne savent pas tout simplement se servir de Zoom, etc. Donc, j'ai eu différents accompagnements. J'ai eu des accompagnements tout simplement par téléphone. Il y a des personnes qui m'ont appelé et par téléphone, je leur disais, dans quel sentiment, ressenti êtes-vous aujourd'hui? Peut-être poser juste une couleur. Bah, des choses assez simples que je pouvais faire par téléphone et qui pouvaient aider la personne. Mmh.
Docteur Jimmy Mohamed. Voilà.
Oui,
parce que justement, comment sortir de l'isolement? On doit dessiner quelque chose en particulier. Vous avez parlé des couleurs. Justement, à ce moment-là, on dessine quoi? Du bleu, peut-être du jaune?
Non, je vais demander à la personne dans quel ressenti vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, par rapport à ce ressenti, poser une couleur et puis écrire autour, par exemple, de la couleur? Et après, ce que j'aime bien faire pour les personnes qui sont isolées, c'est ouvrir des portes. Donc, on en a parlé tout à l'heure, voilà. C'est dessiner une porte, par exemple, ouvrir la porte et dessiner qu'est-ce que vous voyez derrière, est-ce que vous pouvez me dessiner un paysage, etc. Je me suis beaucoup servi aussi de la symbolique des fenêtres et également des murs, tout simplement, dessiner un mur.
La symbolique des fenêtres, c'est-à-dire vous dites aux gens de dessiner des fenêtres?
Oui, tout simplement, dessiner une fenêtre et puis mettre une autre feuille derrière et découper la fenêtre, comme si on ouvrait une fenêtre, voilà. Mmh. Et puis derrière, mettre un paysage, soit le dessiner ou soit trouver une image, que j'aime bien travailler aussi avec les collages. Donc il y a beaucoup, si en art-thérapie, on travaille beaucoup avec la symbolique.
Donc, et ça fonctionne, portes. J'allais dire. Est-ce qu'il y a quand même quelques preuves scientifiques de tout ça? Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont montré effectivement l'efficacité de ce genre d'approche dans des pathologies, que ce soit mentales ou autres? Est-ce qu'il y a déjà eu un peu des travaux dessus? Oui.
Oui, il y a bien sûr des études, que ce soit sur les différents médiums. Il y a eu beaucoup d'études sur l'écriture aussi, comme quoi c'était thérapeutique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que de toute manière, ça fait du bien déjà d'être dans une situation où on crée, parce que on éloigne un peu le sujet, on prend du recul par rapport à la souffrance. Et puis, c'est un moment de détente quand même, voilà, de poser, d'écrire, etc. Donc, je dirais qu'en effet, il y a eu quand même pas mal d'études qui font que c'est prouvé que ça peut faire du bien. Après, en France, c'est vrai qu'on a du retard par rapport à l'art-thérapie. On fait beaucoup appel à nous en institution, c'est-à-dire, moi, je travaille beaucoup avec les maisons de retraite, les associations d'enfants en difficulté, etc. Et après, disons que, par contre, en cabinet, ça se fait encore attendre. C'est pas quelque chose qui est très développé ou très répandu.
Docteur Jimmy Mohamed.
Un petit exercice pratique, si jamais en ce moment on se rend compte que des gens ont peur de sortir, ont peur du virus, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit dessiner justement le virus ou au contraire peut-être un médicament ou un vaccin? C'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais...
C'est super, non, c'est très bien.
Vous êtes dedans, là, ça y est, Jimmy, je crois que vous êtes prêt à vous lancer.
Non, c'est super ce que vous avez dit, parce que c'est exactement ce que j'ai fait pendant le confinement, j'ai fait aussi ça. En fait, pour ne pas avoir peur du virus ou pour prendre de la distance par rapport au virus, j'ai proposé à des patients de le dessiner. Tout simplement, comment vous imaginez ce virus? Donc, ils l'ont dessiné. Et puis après, je dis, établissez un dialogue avec ce virus. Donc il leur pose des questions comme s'il posait des questions.
Oui, c'est de la thérapie en fait, finalement, avec l'art comme support, c'est ça, mais c'est de la thérapie.
Exactement,
en fait,
donc là il n'y a pas besoin de savoir dessiner le virus, voilà. Et puis il y a un côté aussi s'amuser, c'est-à-dire retrouver la joie de l'enfant qui crée, qui est très importante en art-thérapie. Donc ça, c'est une idée. Et l'idée des murs aussi, faire tomber des murs. Voilà.
Pour terminer, Sophie, on a été confinés. Bon, maintenant, il y a le déconfinement, mais certaines personnes ont encore du mal à sortir de chez eux. On n'a pas forcément des aquarelles, des pastels à la maison. Moi, j'ai juste les crayons de couleur de ma petite fille. Est-ce qu'on peut faire de l'art-thérapie avec n'importe quoi qu'on a sous la main, finalement? Qu'est-ce qui peut être utilisé qui ne soit pas du matériel de haut niveau?
Oui, voilà, exactement. Si on va dans mon atelier, en effet, j'ai toute la palette d'outils derrière moi, je peux proposer mille choses. Mais quand on était dans cette période de confinement, j'ai surtout rassuré les personnes en disant, vous pouvez créer avec ce que vous avez sous la main, C'est-à-dire, on a fait beaucoup de travail aussi avec, par exemple, les paquets de céréales, le papier qu'il y avait à la maison. Voilà, on peut également recycler. C'est l'occasion de recycler.
Ah ouais, du papier toilette, les gens en avaient pas mal. Ils ont pu utiliser ça pour faire des...
C'est une possibilité. On aurait pu faire beaucoup de papier mâché. Voilà,
c'est ça.
Voilà. C'est ça. Mais en effet, avec des cartons, les emballages découpés, des formes un peu à la Matisse.
Ouais. Donc, pas besoin d'avoir un grand matériel d'artiste à la maison.
Ça sert à rien. Et nous, on aime bien recycler.
Très bien. En plus, c'est écolo, l'art thérapie. Donc, on adore. Merci beaucoup, Sophie Poussin. D'avoir été notre invité et pour toutes
beaucoup.
Ces précisions sur les bienfaits de l'art thérapie. Merci.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique. Vous les avez peut-être déjà reconnus. Ce sont les Jackson 5. Ça s'appelle Blame It on the Boogie. Jackson 5 avec leur titre Blame It on the Boogie.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle nous rejoint tout de suite en ligne. C'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, tous les jours à la fin de cette émission, vous êtes sexologue et psychanalyste. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Bonjour Catherine.
Allez, Catherine, aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Jordan. Je ne sais pas si on dit Jordan ou Jordan, bon, enfin Jordan. J'ai fait mon coming out à mes parents durant le confinement. Cela s'est bien passé, cependant, je ressens toujours une certaine gêne depuis avec mes parents. Comment faire pour décoincer la situation ? Catherine, est-ce que c'est fréquent cet instant de gêne au sein de la famille après un coming out ? Alors, on rappelle donc dévoiler son homosexualité à sa famille, à ses proches.
Avant le coming out, c'est de toute façon toujours délicat de parler de sa sexualité à ses parents. Et à ce titre, on peut comprendre que la gêne, c'est-à-dire la gêne d'être, c'est pas le tout de le dire, ça veut dire dans l'imaginaire de chacun, des images s'imposent. Et évidemment, on craint les images que l'autre a ou on craint de partager ces images au travers des mots. Donc c'est assez normal que le mélange des genres, c'est-à-dire des générations, parents-enfants, sur le sujet de la sexualité et de l'intimité de sa sexualité, pose problème. Et dans le cas de l'affirmation et de la mise en avant de son choix de vie amoureuse et notamment donc homosexuelle, évidemment que c'est non seulement parler de sa sexualité, mais parler d'une sexualité qui se démarque du modèle proposé par les parents, avec toujours la peur de les décevoir, puisque nous ne marchons pas dans leurs pas. Et évidemment qu'il y a toujours la peur pour une mère, si c'est donc dans le cas là, on parle d'un garçon, donc comme si c'était dire à une mère qu'on ne l'aime pas, puisqu'on aime les hommes, ou faire peur à un père en disant qu'on aime les hommes, ou peur de ne pas être viril, comme le père a peut-être revendiqué une virilité, ou enfin il y a des tas de questions qui se posent, toujours dans le lien de l'enfant avec ses parents, plutôt que de porter tranquillement ce qui naturellement va de soi, à savoir que nous allons vers notre sexualité, vers notre objet d'amour, vers notre érotisation des choses, et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, juste se dire que voilà, nous avons trouvé une voie, que nous sommes en paix avec cette voie-là.
Docteur Dimi Mohamed.
Oui, parce que vous l'avez dit, on peut ne pas être à l'aise à partir du moment où ça s'est bien passé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de décoincer cette situation? On n'a pas spécialement envie de s'étaler sur ni ses relations, ni sa sexualité, qu'on soit finalement homosexuel ou hétérosexuel, ça ne change pas grand-chose. Donc peut-être qu'il faut juste laisser passer le temps. Et puis voilà, on n'est pas tous aussi à l'aise, que ce soit les enfants ou les parents, avec la sexualité des
adultes. Psychanalyste Jimmy Mohamed.
Non, mais vous avez parfaitement raison, Jimmy. C'est-à-dire que dire je suis homosexuel ou dire j'ai un petit ami ou une petite amie en étant hétérosexuel suffit. Les parents actent, posent éventuellement la question de savoir si leur enfant est bien, heureux, ils sont heureux pour lui, même s'ils ne participent pas nécessairement du choix qui aurait été, même d'ailleurs, dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Parfois, on pose des questions, qui est-il, comment s'appelle-t-il, que fait-il, etc. Et ça en reste là. Jamais les parents n'ont lieu de rentrer dans le cadre de l'intimité de la sexualité, des expériences sexuelles, des positions sexuelles, des plaisirs ou non-plaisirs, de la découverte d'un truc fantastique ou pas. Bien évidemment que ça, ce n'est pas quelque chose qui se partage. Et souvent, quand justement, notamment les homosexuels, à partir du moment où c'est tellement difficile, il faut quand même comprendre la difficulté que c'est de pouvoir se positionner en marge de toute une société majoritaire sur les hétérosexuels, c'est tellement difficile qu'il y a une envie de dire son bonheur, qu'il y a une envie de dire sa liberté, qu'il y a une envie de dire ses découvertes. Et c'est évidemment pas avec ses parents que ça peut se faire. Donc c'est important en effet de ne pas chercher à décoder dans une attitude un peu fermée, un froncement de sourcils, une désapprobation. C'est important que...
Peut-être que c'est justement... que lui, que c'est que Jordan qui croit que c'est coincé, et puis finalement ses parents ils n'en parlent plus parce que juste ils n'en auraient pas parlé non plus s'il était hétérosexuel. Et puis voilà, non, c'est peut-être que lui qui ressent ce coincement, je sais pas.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est parce que évidemment il faut du temps pour un enfant de dire à son parent qu'il les rentre dans la vie sexuelle, plus encore quand elle est homosexuelle, dans la majorité des cas. Il y a des enfants qui le disent très jeunes, mais sinon c'est souvent des jeunes adultes ou des adultes d'ailleurs. Et donc évidemment c'est dans ce temps-là de tension où on est les uns sur les autres, où tout d'un coup personne ne pourra s'échapper, comme si l'enfant lui-même avait le sentiment, je dis l'enfant même s'il n'a pas l'âge d'un enfant, hein, mais l'enfant par rapport aux parents, comme s'il avait le sentiment que les parents auraient fui cette confrontation et ils profitent justement du confinement pour que les choses se disent dans ce huis clos. Et du coup, il attend de savoir si on l'aime toujours. Donc, il observe les mouvements, les micro-mouvements des yeux, de la bouche, des dos tournés, des disponibilités, avec peut-être l'envie tout d'un coup qu'il y ait une curiosité, une somme de questions qui ne seraient pas pour les questions en elles-mêmes liées à la sexualité, mais pour une preuve de marquer de l'importance ou de l'intérêt pour ses parents. Mmh. Et principalement, évidemment, surtout la plus grande inquiétude souvent pour l'enfant homosexuel masculin, c'est l'inquiétude de la réception paternelle. Donc évidemment que du coup tout est scruté avec l'idée d'une tension, mais il faut que tout le monde digère ce qui est le moment advenu pour l'enfant qui raconte son homosexualité est une surprise ou pas, hein, parce que les parents ne sont pas dupes, mais ils ont craint aussi ce face-à-face, mais pas craint parce que ça n'est pas bien, craint parce qu'il faudra en faire quelque chose et en dire quelque chose, et les parents eux-mêmes, même dans le cadre de l'hétérosexualité, ne sont pas à l'aise pour évoquer la sexualité de leur enfant.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr demain à 15h pour une nouvelle émission. Merci également à Serge Fontaine, notre réalisateur, et à Benjamin, mon bras droit précieux. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.